je vais inviter Luc Panton à monter, également que Monsieur Virgin pour l'exposé de ce matin. Alors Luc, tout d'abord, ce matin, va nous lire un texte dans les Écritures pour notre série sur l'adoration. Et également, juste vous dire que Monsieur Virgin, pour ceux qui ne le connaissent pas, est directeur de Publication chrétienne, qui est une maison d'édition québécoise de livres chrétiens qui existe depuis, je crois, 1958. C'est ça, Monsieur Virgin? Donc, ça fait quand même un bail qui fait partie du portrait évangélique au Québec. Et Monsieur Virgin a le privilège d'être le directeur de cet organisme. Alors, c'est lui ce matin qui va nous présenter la série, la continuation de la série sur l'adoration. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à Luc. Alors, Luc, à toi.
Donc, le passage biblique de ce matin est tiré de 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 11, ainsi que dans Luc 7, 36 à 47. Tout ça se passe dans la nouvelle édition Genève. Donc, je répète, 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 11, ainsi que Luc 7, 36-47, dans la nouvelle édition Genève. Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais ainsi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il a été ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton que je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus qu'eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Luc 7, 36-47. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à la table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum. Il se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. » Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Et comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle, elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé l'huile sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. »
Merci. Il y a quelques années, j'ai eu le privilège de célébrer le mariage d'une
personne qui était assez en vue, assez bien connue. Et on m'a, excusez, invité non seulement, excusez, non seulement de célébrer le mariage, mais aussi d'adresser la parole de Dieu au couple. Je connaissais bien l'homme en question. Tout le monde connaissait. Et je ne l'ai pas manqué. J'ai pris l'occasion pour lui dire toutes sortes de belles choses. Je lui ai dit d'aimer sa femme. Je lui ai dit que tous les jours, lorsqu'il se levait, qu'il devait trouver un autre moyen de dire à sa femme qu'il l'aimait. Je lui ai dit toutes sortes de belles choses. Je lui ai dit d'être fidèle avec sa femme. Mon épouse et moi étaient assises là-bas, puis je me suis senti, merci beaucoup, un peu hypocrite, mais voilà. Les amis ici, vous ne comprenez pas ça, hein? Après la cérémonie, il y a une femme qui est venue me voir, puis elle me dit, « Je t'adore. » C'est tellement beau qu'est-ce que tu as dit. Je suis content que mon mari a écouté ça. Tu es la femme la plus chanceuse du monde. Bon, ma femme n'était pas loin, puis elle a fait un sourire. Puis je me suis mise à penser à ce mot adorer. Qu'est-ce que nous adorons? Pourquoi nous adorons? On adore les fruits de mer, ou pas? J'adore mes petits-enfants, je le confesse. Nous adorons. Nous sommes faits pour adorer quelque chose. Ce matin, nous allons parler du fait que nous adorons Dieu. Yannick nous en a déjà parlé la semaine passée. Et ce matin, je voudrais qu'on pose une base solide pour l'adoration. Pourquoi qu'on adore Dieu et pas d'autre chose? Pourquoi qu'on adore le Dieu de la Bible? Est-ce qu'il mérite d'être adoré? Pourquoi que nous les adorons? Nous avons lu ce passage dans 1 Corinthiens 15. Ce matin, je voulais m'assurer à quelle heure la réunion commençait ce matin. Vous aviez un mensonge dans votre site web, ça dit 10 heures. C'est pour vous encourager d'arriver à l'heure, je suppose. Mais je suis arrivé. Puis sur votre site web, c'est marqué « Une église centrée sur l'Évangile ». Je suis content de le lire. Et ce matin, si on cherchait dans la Bible un passage qui explique mieux l'Évangile que tout autre passage, c'est bien 1 Corinthiens 15. Nous allons regarder ce passage sous quatre points. D'abord, nous allons essayer de définir l'Évangile. Et après ça, comme premier point, nous allons voir que l'Évangile concerne une personne. Et deuxièmement, nous allons voir que l'Évangile concerne le péché puis la substitution. Et troisièmement, nous allons regarder pour voir que l'Évangile, dans ce passage, concerne un événement historique, la résurrection. Et quatrièmement, nous allons voir que l'Évangile concerne une grâce qui transforme. Et nous allons tirer quelques conclusions. D'abord, une définition. Ça veut dire quoi, Évangile? Probablement, vous avez déjà entendu dire que le mot « évangile » veut dire « bonne nouvelle », encore plus fort, « joyeuse nouvelle », quelque chose qui nous rend joyeux. Dans le temps de l'apôtre Paul, le mot tel que c'était utilisé dans la culture et dans la langue grecque était encore plus fort que cela. Ça parlait d'une nouvelle qui pouvait changer le cours de l'histoire. C'était utilisé pour, par exemple, d'écrire des nouvelles concernant la défaite d'une armée qui attaquait. On était dans une ville, puis une armée nous attaquait, puis voulait nous détruire, nous tuer, puis l'armée y renvoyait, puis nos soldats ont gagné la bataille. Ça, c'était un évangile. Ça, c'est les bonnes nouvelles qui changent le cours de l'histoire. Le couronnement de nouveau roi, c'était un évangile aussi, c'était des bonnes nouvelles qui pouvaient changer le cours de l'histoire. L'Évangile, c'est le centre de notre croyance. Si quelqu'un vous demandait ce que vous croyez, comment vous décrivez votre croyance chrétienne? Est-ce que ce serait le genre de gouvernement que vous voulez dans votre pays, comme nos voisins au sud, des fois, c'est ça leur Évangile? Est-ce qu'on parlerait de notre compréhension des détails de ce qui va arriver lors du retour du Seigneur? Quelle serait notre définition de l'Évangile? L'Évangile, c'est le centre de notre croyance. Puis c'est très intéressant, si vous suivez le chapitre 15, les premiers versets ici, vous voyez que Paul l'avait annoncé, cet Évangile-là. Et vous voyez que les croyants l'avaient reçu. Et les croyants avaient persévéré dans cet Évangile-là. Ils ont été sauvés par l'Évangile. Paul aussi l'avait reçu directement de Dieu, cet Évangile-là. Puis d'autres l'avaient prêché. Cet Évangile-là, c'était le centre de la croyance de ces chrétiens. Notre premier point, c'est que l'Évangile concerne une personne. Vous avez remarqué dans 1 Corinthiens 15, je vous avais enseigné, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ. Et voilà le cœur même de notre foi. Notre message est Jésus-Christ. Ça, c'est le message de l'Évangile, et c'est pour ça que nous adorons. Et cela distingue notre foi de toute religion. Voyez-vous, Jésus est plus qu'un enseignant. Les religions ont tous un enseignant quelconque. Mohammed a été l'enseignant qui a débuté la religion islam. Mais si vous regardez la religion islam, on peut distinguer entre leurs prophètes, leurs enseignants, puis leurs croyances. Il y a, par exemple, les sept piliers de l'islam. Puis on distingue entre le contenu de la religion et la personne qui l'a enseigné. Chez les bouddhistes, on a 10 étapes, puis dans certaines formes de bouddhisme, 12 ou 13 étapes vers la foi bouddhiste. Donc, leur croyance est distinguée quand même de celui qui l'a fondée. Mais pour nous, Jésus-Christ n'est pas plus qu'un enseignant. Jésus-Christ est notre foi. Et c'est intéressant dans le passage que notre frère a lu pour nous dans 1 Corinthiens 15, qu'il n'y a pas une liste de choses à faire et à ne pas faire. Paul décrit l'Évangile qu'il a enseigné, puis il ne dit pas, mais il ne dit même pas, vous devez vous repentir, puis vous devez exercer la foi, puis il faut faire ci, puis il ne faut pas faire cela. Non. Christ, le centre de l'Évangile. L'Évangile est basé sur des faits historiques. Et non pas sur une liste de choses à faire et de ne pas faire. Il n'y a rien ici que nous devons faire ou pas faire. Il n'y a pas de liste, rien de ce que nous pouvons faire de toute façon de nous rendre acceptable devant Dieu. J'espère qu'on comprend ça. On ne peut rien faire pour être acceptable devant Dieu. C'est ça que Jésus a fait qui nous rend acceptable devant Dieu. Notre vie changera sûrement par l'Évangile. Si on reçoit Christ, notre vie doit changer. Mais ça, c'est une conséquence, ce n'est pas une cause. Non, l'Évangile, c'est Christ. Deuxièmement, ici, l'Évangile concerne le péché et la substitution. D'abord, le péché. C'est un mot tellement populaire dans notre culture aujourd'hui. C'est un mot dont on parle toujours à la télévision. On vit dans une société où nous réalisons que nous sommes pécheurs, n'est-ce pas? Et pourtant, le péché est le plus fondamental des problèmes humains. Voyez-vous, Dieu nous a créés. Et non seulement que Dieu nous a créés, puis nous devons notre existence à Dieu, mais Dieu aussi nous soutient entièrement dans notre existence. J'aime beaucoup la science. J'ai une petite formation en théologie, je suis comptable, mais j'aurais aimé ça être physicienne. Je pense que j'aurais aimé ça travailler dans un centre nucléaire, dans la recherche, je ne sais pas. C'était mon rêve quand j'étais garçon. Les atomes, j'ai appris quand j'étais petit gars, il y avait des électrons, puis des protons, puis des neutrons. Puis là, aujourd'hui, 60 ans plus tard, on réalise qu'il y a des sous morceaux. Puis on demande, c'est quoi la matière? Comment qu'on existe? Puis on pose bien des questions. La Bible nous dit que Jésus-Christ soutient toutes choses par sa parole puissante. Et si j'existe, c'est parce que Dieu soutient mon existence. Je dois envers Dieu le fait que je suis créé puis le fait que j'existe encore. Et je dois vivre totalement pour lui. Jésus a dit que le plus grand commandement, c'est qu'on doit aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, de tout notre être. Mais qui ici peut dire qu'il vit comme cela? Nous ne vivons pas pour Dieu, puis on ne vit pas pour notre voisin. On vit pour soi-même, on est égoïste. Puis il y a aussi cette question de substitution. Voyez-vous, on a cette pensée aujourd'hui que si on s'excuse, mais tout est correct. Ma fille travaille pour le fisc. Mon gars aussi. Travaillent tous les deux pour Revenu Canada. Ils sont des publicains, pour ceux qui connaissent l'expression biblique. Mon garçon travaille dans l'informatique, ma fille travaille dans la perception. Et si vous devez de l'argent au fisc, au gouvernement du Canada, vous risquez qu'elle vous appelle. Elle est quelqu'une. Moi, j'étais surpris de savoir qu'elle peut, dans la journée même, saisir votre maison, votre salaire, votre auto, puis vos enfants, ça a l'air, qu'elle me dit. Puis si vous dites à ma fille, oui, je sais que je n'ai pas fait des déclarations d'impôt depuis 5 ans, mais là, je vais faire mieux. Je m'excuse, j'aurais dû le faire, mais là, je vais faire mes déclarations à partir d'aujourd'hui, là. Elle vous dira, bon, content que vous changez, mais là, il reste 5 ans. Puis moi, je viens d'estimer vos revenus tant, puis vos impôts tant, puis voici qu'est-ce que vous me devez. Jusqu'à ce que vous prouviez le contraire. Hein? C'est comme ça que ça marche. Voyez-vous, ce n'est pas assez de confesser. Nous avons une dette envers Dieu. Mais notre dette envers Dieu est infiniment grande. Et Jésus n'est pas venu seulement pour enseigner, mais pour régler notre plus grand problème. Avez-vous remarqué le mot ici, « Christ est mort pour nos péchés » Quand on étudie les différentes langues, puis malheureusement, j'ai eu le privilège ou le fardeau d'étudier différentes langues dans ma vie, les prépositions sont toujours difficiles. Puis ici, dans l'original, ce mot « pour » a un sens assez spécifique, ça veut dire « à la place de ». Jésus est mort à place de nous pour nos péchés. J'aime beaucoup que l'apôtre Paul ici utilise le mot « nous » pour nos péchés. Imaginez-vous donc que l'apôtre Paul était peut-être l'homme le plus juste qui avait jamais vécu à part de Jésus-Christ. Il était pharisien des pharisiennes. Il passait sa vie à étudier plus que 300 règlements pour les obéir chaque jour. Pur dans sa vie, il suivait la loi parfaitement autant qu'il a pu le faire. Il était membre de la meilleure religion dans le monde, la religion que Dieu lui-même avait donnée aux Juifs. Puis là, il écrit une lettre à l'église de Corinthe, qui est dans la ville de Corinthe. Savez-vous que dans le temps de l'apôtre Paul, lorsque les personnes voulaient décrire quelqu'un de très immoral, qui n'avait pas d'allure dans leur vie, qui était vraiment débauché, savez-vous comment on l'appelait? On l'appelait un Corinthien. Et l'apôtre Paul dit, nos péchés, mes péchés à moi, puis vos péchés à nous, à vous, puis il met ça tout dans le même panier, nos péchés. Jésus a pris notre place. Nous méritions la mort terrible, mais il est allé à la croix et il a expérimenté la mort que nous méritions. Et quand nous croyons en lui, nous recevons ce qu'il méritait. Dieu nous voit comme si nous avions vécu la vie que Jésus a vécue. Puis j'écris cette dernière phrase, puis ça m'a bouleversé depuis un certain temps. Et Dieu nous aime exactement comme il aime son Fils. Je suppose que j'ai lu Jean chapitre 17 5000 fois dans ma vie, certainement. Mais il y a un petit bout de phrase dans le verset 23 qu'il me semble que j'ai remarqué, qui m'a beaucoup impressionné dernièrement. Où Jésus dit à son Père, « Tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous le comprenez? Que Dieu le Père, qui regardait son Fils lors de son baptême, puis il a dit, « Voici mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu qui aime son Fils depuis toute l'éternité, il n'y a jamais eu un temps, même avant que le temps existe, où le Père n'aimait pas le Fils. Puis le Fils retournait cet amour-là. Puis ce Dieu-là qui aime son Fils depuis toute l'éternité, avec un amour qu'on ne peut même pas concevoir, Jésus nous dit qu'il nous aime de cette façon-là. Est-ce qu'on doit adorer Dieu à cause de sa grâce envers nous? Vous savez que la Bible utilise beaucoup de métaphores pour illustrer cela. Il y a le palais de justice. L'apôtre Paul fait ça dans l'épître de Romains. Dieu est le juste juge. On vient devant Dieu, puis il nous juge. Puis heureusement, Christ est mort à notre place, puis il a payé pour notre péché, il a payé notre péché, durant qu'on est libéré de la sentence de la mort que nous méritons. Il y a cette illustration du champ de bataille qu'on trouve à travers la parole de Dieu, où Christ est le grand vainqueur qui a vaincu notre ennemi, le diable. Il y a l'exemple de l'agora, de cette place de marché, où nous étions comme des esclaves vendus au péché. Puis Christ a payé le prix pour nous racheter, pour qu'on devienne libre. On a ces illustrations-là dans la Bible parmi tellement d'autres. Et que ces illustrations de ce que Christ a fait pour nous soient toujours une source d'émerveillement pour nous. Qu'on soit émerveillé pour voir toute la profondeur de l'œuvre de Christ qu'il a fait pour nous. Mais il y a une idée commune dans toutes ces métaphores, mes chers amis. Sur la croix, Christ gagne la bataille. Il a porté notre condamnation sur la croix. Il a payé notre dette sur la croix, cette substitution. John Stott, un de mes auteurs préférés, le présente comme ceci. Il dit, Stott, que la compréhension de la substitution, que Christ s'est substitué pour nous, puis il a payé la dette de notre péché à notre place, il dit, c'est essentiel pour comprendre l'Évangile. Puis Stott l'exprime comme ceci. Il dit, nous nous sommes substitués pour Dieu. C'est l'essentiel du péché, cela. On se prend pour Dieu. C'est ce qu'Adam et Ève ont fait. Ils ont dit, Dieu a décidé ça, mais nous prenons pour Dieu, puis nous prenons nos propres décisions. Et nous faisons tout cela. Nous ne nous soumettons pas à notre créature. Nous nous substituons à Dieu. Le message de l'Évangile, c'est que Jésus-Christ est substitué pour nous. Puis la punition qu'on méritait, Christ l'a subi pour nous. Quelqu'un peut dire, quelle religion sanglante! Que Dieu exige un sacrifice sanglant sur le croix, que le sang coule. C'est pire que même les religions païennes, certains vont dire. Il y a un auteur dernièrement qui a dit « La doctrine de la substitution, c'est le but d'enfant cosmique. » J.I. Packard, un autre de mes auteurs préférés, ceci. Il dit ceci. C'est vrai que les païens avaient une religion sanglante. Vous connaissez l'histoire d'Hélène de Troie, ce grand cheval de Troie. Ça passe à la télévision dernièrement depuis un certain temps. Imaginez-vous, j'ai été petit garçon à l'école, puis on nous a forcé d'apprendre le latin, puis j'ai dû lire tout ça en latin quand j'avais 12, 13 ans. Quelle chose terrible à faire des garçons. Dans cette histoire, il y a un roi qui s'appelle Agamemnon, qui était responsable de l'armée qui devait attaquer à la Troie pour récupérer Hélène de Troie, cette belle femme, et pour punir le peuple qu'il avait kidnappés selon eux. Mais malheureusement, leur bateau a été pris dans. Ils ne pouvaient pas partir à cause des vents contraires. Puis on a jugé que les dieux avaient été insultés pour une raison quelconque, puis avaient envoyé ces vents contraires. Alors, ce grand général, qui était presque un roi dans une partie de le territoire, savez-vous qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait venir sa fille préférée, la plus vieille de ses enfants, belle fille. Il l'a sacrifiée vivante devant tout le monde pour apaiser les dieux. Est-ce que ce n'est pas ça la croix? Est-ce que notre foi, notre croyance dans la substitution, est-ce que c'est mieux que ça? Certains posent les questions. Mais j'aimerais vous dire que le christianisme, que notre foi est différente de cela, complètement différente. Parce que dans l'histoire ici que nous avons racontée, Agamemnon, il veut apaiser ses dieux en sacrifiant sa propre fille. On apaise les dieux par nos actions. Mais dans la foi chrétienne, c'est Dieu même qui s'offre à lui-même pour apaiser. Il se sacrifie lui-même. Il est le sacrifice. Et c'est la différence. C'est le contraire. C'est le renvers de la religion païenne. Troisièmement, non seulement que l'Évangile concerne une personne, puis le péché, la substitution, mais l'Évangile concerne un événement historique, la résurrection. Chers amis, la résurrection joue un rôle primordial dans l'Évangile. C'est intéressant ici que cette vérité occupe ici cinq versets, versus un seul verset qui nous parle du péché et de la substitution. C'est parce que c'est important. Puis le reste de 1 Corinthiens 15 va en exposer l'importance. C'est parce que la résurrection garantit notre salut en ce qui concerne le passé et ce qui concerne l'avenir. Pensons à comment la résurrection garantit le passé. Comment je peux savoir que le sacrifice de Christ a été accepté et que notre dette a été acquittée? Comment avoir la paix, la conscience tranquille avec cela? Vous savez que dans l'ancien temps, les personnes qui ne pouvaient pas payer leur dette allaient en prison. Ma fille est capable de saisir votre maison, puis votre salaire, puis votre voiture, mais elle ne peut pas vous envoyer en prison. Mais dans l'ancien temps, c'est ce qu'on faisait. Puis, la personne qui devait une grande dette, il savait que sa dette était payée quand il était libéré de la prison. Et le salaire du péché est la mort. Et notre Seigneur Jésus-Christ est mort, mais il était libéré de la prison de la mort. Et cela est la preuve que la dette est payée. Et concernant le futur, chers amis, presque tous les êtres humains ont certains désirs. Tolkien, qui écrit Le Seigneur des Anneaux, puis la Hobbit, il écrit un texte à un moment donné qui était publié, dans lequel il dit que les personnes s'intéressent à la science-fiction, aux histoires comme il a écrit. Pourquoi? C'est parce qu'on imagine un meilleur monde, un monde différent. Et Tolkien suggère que presque tous les êtres humains ont certains désirs. Échapper à la mort, on veut tous échapper à la mort, n'est-ce pas? Vivre un amour sans séparation puis sans fin. Mon épouse et moi, nous avons atteint le 70 ans cette année. Je commence à enterrer mes amis. Je souhaite vivement que mon épouse m'enterre. Moi, je ne veux pas l'enterrer, mon épouse, vous comprenez? La séparation. Après 47 ans de mariage, nous serons séparés un jour. La fin absolue de toutes les formes du mal. Je n'aime plus regarder les nouvelles à la télévision. Je suis rendu un vrai Québécois, je lis le journal de Montréal, ça monte les 10 pages en arrière, je ne veux même pas lire les pages en avant, je suis trop découragé. Je ne veux plus être limité par le temps, par une vie qui va finir. J'ai plein de choses que je veux encore accomplir pour le Seigneur, puis je ne sais pas si je vais les accomplir avant de mourir. Je ne veux pas être limité par le temps. Mais chers amis, si Christ est vraiment ressuscité, toutes ces choses deviendront notre réalité un jour. Et la résurrection ici n'est pas seulement une histoire, ce n'est pas seulement une légende. Mais Paul donne des preuves. Je parlais avec Alexandre Marquis tantôt, il est en rédaction de thèse. Et je vais prier pour lui, je sais qu'est-ce que ça veut dire, pauvre lui. Puis quand on rédige une thèse, mais on va avoir des notes de bas de page ou des notes de fin. Et c'est peut-être la partie la plus pénible de tout noter où est-ce qu'on a trouvé nos sources, puis les écrire en détail, dans le bon format. C'est plate à mort. Bon courage, Alexandre. Mais l'apôtre Paul a des notes de bas de page ici. Il parle de la résurrection, puis il dit, mais il y avait telle personne qui l'a vu, puis telle autre personne, puis une autre personne, puis 500 à 300 personnes, puis moi, C'est notre page qui soutient son thèse. Une liste de centaines de personnes, des témoins oculaires. Vous savez que 1 Corinthiens a été composé probablement seulement 20 ans après la mort de Jésus. Hein? Puis beaucoup de ces personnes étaient vivants encore, puis ceux qui voulaient pouvaient les consulter pour voir si Jésus était vraiment ressuscité. 4. L'Évangile concerne une grâce qui transforme. Avez-vous remarqué qu'au verset 10, dans le texte que nous avons lu, le mot « grâce » s'y trouve 3 fois? On lit par la grâce de Dieu. Paul dit « sa grâce envers moi ». Encore, il dit « mais la grâce de Dieu qui est avec moi ». Puis je pose la question, pourquoi que Dieu a fait tout cela pour nous? Pourquoi que Dieu a fait ça qu'on vient de voir, que Christ est mort pour nous, qu'il est ressuscité pour nous, qu'il s'est substitué, il était notre substitut? Pourquoi qu'il a payé un si grand prix? Est-ce que c'est parce que nous avons quelque chose dont Dieu a besoin? Vous savez qu'on est tellement mal fait, puis on a tellement une grande image de soi, une estime de soi, qu'on pense que nous avons quelque chose que Dieu a besoin. Que Dieu nous a sauvés parce qu'il avait besoin de nous. Chers amis, Dieu existe sans avoir besoin de quoi que ce soit. Il se suffit à lui-même. Et tout ce que Dieu a fait, c'est par pure grâce, faveur non méritée. Ce n'est pas parce qu'il a besoin de quelque chose de nous. La grâce de Dieu doit nous changer. C'est non mérité. Cela devrait produire l'humilité. Plus que je veillais, plus que je regarde dans mon cœur et je vois un orgueil qui ne devrait pas être là. Pourquoi que moi, je serais orgueilleux? Est-ce que j'ai une raison pour être fier de moi? Et si l'humilité nous baisse, mais cette grâce-là, c'est sans condition, ça devrait nous relever dans notre espoir. Et cette grâce-là, c'est très coutu. Et cela devrait produire l'adoration. L'Évangile doit produire en nous l'émerveillement. Chers amis, en conclusion, j'aimerais revenir à cette histoire de la femme qui a oint les pieds du Seigneur avec ses larmes et avec le parfum d'un si grand valeur. Notre frère nous a lu l'histoire. Et nous avons dans cette histoire-là Simon la pharisienne qui était très religieux, très respectueux, sans doute un homme juste, puis un homme qui respectait sa religion, puis avait une vie pure. Puis nous avons cette femme qui est une grande pécheresse. Est-ce que c'est Marie Magdalène? On n'est pas certaine de comment tous les différents récits dans les évangiles peuvent être compris chronologiquement. En tout cas, c'était une grande pécheresse, le passage nous dit. Puis elle avait été pardonnée, puis elle à prendre un vase de parfum d'une grande valeur. Puis elle fait l'onction des pieds du Seigneur, puis elle lave ses pieds, puis elle embrasse ses pieds. Vous savez que j'aime beaucoup mon épouse, elle aime beaucoup que je lui frotte le dos, elle a mal au dos. Puis ma femme, mon épouse, croit que c'est plus béni de recevoir des frottages de dos que d'en donner. Alors, si je faisais la conjugaison du verbe, je dirais « je frotte, je ne suis pas frotté ». Des fois, j'ai mal aux pieds. Je dis « chérie, veux-tu me frotter les pieds, s'il vous plaît? Il faut que je prenne un bain. Il faut que je mette du Old Spice. » Puis là, des fois, embrasse les pieds du Seigneur. Le passage nous dit que Simon n'avait pas même offert de lui laver les pieds lorsqu'il est rentré dans sa maison. Dans un pays chaud, lorsqu'on portait des sandales, elle a fait cela. Il a adoré. Dans notre adoration, est-ce que nous sommes remplis de gratitude? Vraiment? Dans l'épître de Romains, au chapitre 1er, nous avons le grand argument, la grande présentation du péché dans l'histoire de l'humain, dans l'histoire de l'humanité. Puis nous avons lu ce chapitre premier plusieurs fois, puis nous nous rappelons que les hommes ont adoré la créature plutôt que le créateur. Puis on voit les conséquences de tout cela, délaisser Dieu, puis être même abandonné par Dieu, puis le débauche, puis le désordre dans notre société. Mais il y a un petit point qu'on oublie des fois. Parce que le point de départ, l'origine du concept que les hommes ont adoré la créature plutôt que le créateur, on le voit très bien lorsqu'ils ont vu l'existence de Dieu dans la création révélée. Le passage nous dit qu'ils n'ont pas été reconnaissants. Le manque de reconnaissance précède l'idolâtrie dans Romains chapitre 1er. Puis je pose la question, est-ce que nous sommes remplis de gratitude? Ça se peut-tu qu'on soit ingrat? Est-ce que c'est une raison pour laquelle on n'adore pas vraiment dans nos cœurs, comme Dieu le mérite? Est-ce que nous sommes ingrats? Est-ce que cela nous enlève nos inhibitions? Écoute bien, pour qu'une femme avec une réputation de pécheresse rentre sans être invitée dans la maison d'une pharisienne et devant tout le monde, fait ça à Jésus, lave ses pieds, pleure, oint d'huile comme ça, elle avait perdu ses inhibitions. Je suis un gars gêné. J'aime pas être en public. J'ai mes inhibitions. Moi aussi, j'ai ces limites-là, mais devant ce que Dieu a fait pour nous, est-ce que ça nous enlève nos inhibitions? Oh, chers amis, est-ce que notre adoration nous coûte cher? Je ne sais pas si cette femme était une femme riche, je n'ai pas l'impression. Puis, qu'est-ce qu'elle avait de plus cher? Sans doute, elle a beaucoup donné pour acheter ce parfum-là. Elle a cassé la peau, puis elle a oint les pieds du Seigneur. Puis est-ce que nous prenons le temps pour l'adoration? Mon habitude, c'est chaque matin, au début de la matinée, de prendre du temps pour lire la parole de Dieu et pour prier. Puis je dois vous dire que mes prières sont souvent une liste de mes besoins. Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. En quelle mesure que mes prières le matin sont remplies d'adoration? Pour terminer, j'ai deux derniers points que j'aimerais faire. Pourquoi que nous n'adorons pas assez? Pourquoi ce n'est pas notre priorité? D'abord, je pense que nous ne réalisons pas la profondeur. Combien que nous avons été perdus, la profondeur de notre péché. J'aimerais ça qu'avec moi, que vous imaginez la pire personne sur la terre. Imaginez un meurtrier qui a tué des dizaines de personnes pour aucune raison. Une personne qui vit dans l'ivresse, puis la drogue, puis bat sa femme, puis ses enfants, qui vole. Une personne qui parle mal. Vous savez que je n'ai pas appris le français à l'école, j'ai appris dans la rue. Quand j'avais 12 ans, ma famille a déménagé à Sorel, où mon père devait surveiller la construction de bateaux pour la marine canadienne. Puis je ne parlais pas un mot de français, puis on m'a envoyé dans une école française. Puis j'ai appris le français de mes amis. Je suis retourné dans les provinces atlantiques, puis quand je suis revenu au Québec, il fallait que je réapprenne le français et que j'oublie certains mots que j'avais appris à la petite école. Que je nettoie, je purifie ma vocabulaire un peu. Imaginez-vous donc le gars le plus salaud du monde. Ça, c'est un mot que j'ai appris à Sorel quand j'étais petit gars. Un vieux macro, est-ce que vous dites ça? Ça se dit encore, hein? La pire espèce de personne qui existe dans le monde. Mais je ne suis pas différent de ça. Puis vous non plus. Puis les yeux de Dieu, nous sommes aussi pires que le pire des pécheurs dans ce monde. Il n'y a aucune différence. Moi, je suis un bien bon gars. Toujours été fidèle à ma femme. Je ne bats pas mes enfants. J'ai bonne relation avec ma famille, je sers Dieu, je donne ma dîme, je suis un bon gars. Non. L'apôtre Paul a dit, je suis le pire des pécheurs. Puis moi aussi, puis vous aussi. Puis je pense qu'une des raisons qu'on adore pas Dieu, c'est qu'on ne réalise pas des profondeurs de laquelle il nous a tirés. On a parlé de John Newton ce matin dans le cours qu'Alexandre Marquis a enseigné, puis il écrit « Amazing Grace ». Excusez-moi, là, en vieillissant, j'ai plus de mémoire que j'avais, mais je me souviens en anglais, « Who saved a wretch like me », qui a sauvé une méchante personne comme moi. Puis John Newton, écoute bien, c'est un gars qui vendait des esclaves, qui allait en Afrique prendre des esclaves, les mettre dans son bateau comme des sardines, puis les amener en Amérique pour les vendre. C'était un terrible homme. Puis Dieu l'a pris, puis l'a sauvé, puis je ne suis pas différent de lui, puis vous non plus. Puis nous n'adorons pas parce que nous ne comprenons pas qui nous étions. Puis deuxièmement, puis je termine, nous n'adorons pas parce que nous ne comprenons pas la grandeur de la grâce de Dieu envers nous. La grâce, faveur imméritée. Le profond, le grand prix qui a été payé. On regarde une croix crucifiée, puis la dernière fois que je suis venu, il y avait une croix, il n'y a plus là le croix, je ne sais pas ce qui s'est passé. Excusez-moi si je fais des problèmes. Je suis sûr que ça a été une discussion. Est-ce qu'on réalise le grand prix qui a été payé pour notre salut? Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Le meilleur de ce qu'il y avait dans l'univers, Jésus-Christ, Créateur, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, objet depuis l'éternité des affections de son Père, parfait sans péché, entouré des saints anges qui criaient « Saint, Saint, Saint », qui protégeait sa sainteté et descendre sur terre le plus humble des hommes, né dans une étable, vivre pauvrement, être rejeté, livré, passer par un procès complètement illégal, subir une injustice terrible, être fouetté, la barbe arrachée, craché sur lui, être moqué de lui, monter sur une croix, la pire souffrance qu'on peut imaginer, donner sa vie pour nous. Est-ce qu'on réalise que sur la croix que Jésus-Christ a pris sur lui le poids de mes péchés, puis Dieu l'a traité comme s'il avait traité tous les péchés que moi j'ai commis, que vous avez commis? Est-ce qu'on réalise qu'est-ce que ça a coûté cher, notre salut? Je pense que si on le réalisait, qu'on servirait mon adorateur. Nous allons prier. J'aimerais vous demander de vous joindre avec moi dans l'adoration et de décider avec moi que nous allons faire de l'adoration une plus grande priorité de notre vie. Une adoration motivée, entre autres choses, mais ce matin, c'est notre thème, adoré par la grâce de Dieu dans l'Évangile. Prions, s'il vous plaît. Ah, Seigneur Dieu, nous nous courbons devant toi et nous t'adorons. Tu mérites l'adoration parce que tu es Dieu, notre Créateur, souverain de l'univers, élevé en majesté, parfait dans tes voies, pure, intelligente, puissante. Mais nous t'adorons surtout ce matin parce que tu es un Dieu de grâce, qui a payé un prix infini qu'on ne peut même pas concevoir pour nous qui étions des salauds, de terribles pécheurs en rébellion contre toi. Puis tu as fait de nous tes enfants, puis tu fais de nous les objets de ton affection. Nous t'adorons. Nous t'adorons pour ta grâce envers nous. Et nous demandons que dès ce moment, que tu changes nos priorités, et que tu fasses de nous de vrais adorateurs. Au nom de Jésus.